nos voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on essaye de comprendre la pénurie de main-d'œuvre, qualifiée ou non, dans le monde. Aux États-Unis, 10 millions d'emplois sont vacants. L'Allemagne a besoin au moins de 400 000 travailleurs qualifiés. Le Royaume-Uni est doublement touché par le Brexit et le départ des travailleurs non européens. En France, c'est près de la moitié des dirigeants d'entreprises qui peinent à recruter. La Chine est également confrontée dans une moindre mesure à une vague de démissions, notamment dans la jeune génération, en raison de salaires trop bas. Cette pénurie de main-d'œuvre est-elle uniquement due à la reprise économique mondiale ou bien risque-t-elle de durer, car elle serait le symptôme d'un changement des mentalités par rapport au travail? La pandémie a-t-elle transformé durablement les aspirations professionnelles des citoyens, du moins ceux qui peuvent choisir leur emploi? Et dans ce cas, comment repenser la nécessité des migrations internationales pour faire tourner les économies? On attend vos réactions sur WhatsApp. Vous pouvez nous téléphoner ou nous laisser des messages audio au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités. Christine Herel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Le CNAM, c'est le Conservatoire national des arts et métiers. Également avec nous, Vincent Sitz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de la commission emploi-formation du groupement national des indépendants hôtellerie-restauration, restaurateur à Paris. C'est le secteur dont on a énormément parlé, d'abord pendant la pandémie, avec toutes les fermetures d'établissements, et puis avec la reprise, la pénurie de main-d'œuvre. On sera aussi en ligne avec notre correspondante à New York, Lubna Anaki. Les grèves se multiplient dans le pays pour obtenir des hausses de salaire, et au Royaume-Uni également avec Claire Di Giacomi.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Et tout de suite, justement, direction le Royaume-Uni où la pénurie de main-d'œuvre est particulièrement visible. Bonjour Claire Di Giacomi.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Londres. Quelles sont les conséquences concrètes de ce manque de main-d'œuvre à Londres où vous vivez ?
Eh bien, je peux vous dire qu'on les voit partout au quotidien. Le plus spectaculaire, c'était ces files d'attente interminables devant les stations-service britanniques il y a quelques semaines. C'était la conséquence majeure de ce manque de main-d'œuvre, même s'il faut bien le dire, la panique des automobilistes qui se sont précipités à la pompe a aggravé la situation. En fait, il n'y avait plus assez de chauffeurs pour conduire les camions-citernes qui ravitaillent les stations-service. Alors cela s'est calmé aujourd'hui, mais les Britanniques voient aussi les rayons vides dans les supermarchés. Plus de volailles ou de produits laitiers. On finit toujours par en trouver, mais il y a parfois moins de références. C'est encore une conséquence de cette pénurie. Il manque des chauffeurs routiers pour approvisionner les magasins. Il en faudrait 100 000 de plus. Mais en fait, tous les secteurs sont concernés. Il manque aussi des ouvriers agricoles, des bouchers, des serveurs, des cuisiniers, des vendeurs. Il y a des offres d'emploi sur de très nombreux restaurants et magasins. Je suis même passée dimanche devant une boutique de vêtements dans le quartier chic de Sloane Square, qui annonçait sur sa vitrine qu'elle réduisait le nombre de clients acceptés en même temps parce que l'équipe n'était pas assez nombreuse.
Et le Royaume-Uni est plus durement touché par ce problème assez mondial ?
Oui, le Royaume-Uni a été frappé plus fortement que les autres pays parce qu'il a pris de plein fouet une superposition de crises, la pandémie, les retards mondiaux d'approvisionnement qui ont suivi, mais aussi le Brexit. Avec la sortie de l'Union européenne le 1er janvier, l'économie britannique s'est retrouvée dépourvue de sa main-d'œuvre étrangère sur laquelle elle reposait tant, les Français dans la restauration, les Polonais dans le bâtiment par exemple. Ceux qui étaient au Royaume-Uni sont très nombreux à être rentrés dans leur pays d'origine pendant les confinements. Et désormais, il est très difficile de retrouver leurs remplaçants, car il faut un visa pour les recruter. C'est une procédure chère, complexe et avec peu d'élus si les secteurs ne sont pas considérés comme en tension. C'est le cas, par exemple, de la restauration.
Et qu'a fait le gouvernement britannique pour répondre à cette situation de pénurie de main-d'œuvre ?
Alors, au plus fort de la crise du carburant, il s'est résolu à contre-cœur à accorder 5000 visas exceptionnels aux chauffeurs routiers étrangers, 5500 au secteur de la volaille. Seulement, ces visas ne sont que temporaires, valables jusqu'à Noël uniquement, et ils ont eu du mal à trouver preneur, quelques dizaines de candidats seulement pour les transports. C'est mieux, en revanche, pour l'agroalimentaire, la moitié des permis de travail auraient été attribués. En attendant, le problème est loin d'être réglé. Les salaires augmentent à cause de la pénurie de main-d'œuvre ce qui pèse sur les entreprises. Les prix augmentent à cause des problèmes de transport. Les pénuries devraient durer encore plusieurs semaines, à tel point que la préoccupation des Britanniques en ce moment, c'est de savoir s'il y aura assez de dinde sur les tables à Noël ou assez de cadeaux sous les sapins.
Affaire à suivre donc. Merci Claire Di Giacomi, en direct de Londres. Christine Herrel, en France, la toute dernière étude de l'Association nationale des DRH estime que 80% des DRH sont confrontés à un souci majeur de pénurie de main-d'œuvre. 44% des TPE, PME recrutent avec des difficultés, alors qu'en face, on a quand même encore un taux de chômage autour de 8%. 800 000 à 900 000 offres d'emploi, 3 millions de chômeurs. Qu'est-ce qui se passe exactement, y compris dans un pays comme la France, qui ne subit pas de plein fouet le problème du Brexit ?
Alors déjà, il faut se dire que les chiffres que vous évoquez ne sont pas en réalité nouveaux ni exceptionnels. C'est-à-dire qu'on est en train de retrouver le niveau des pénuries de main-d'œuvre qu'on avait en 2019. Alors bien sûr, ensuite, sur certains métiers, certains secteurs, je pense que quand on parlera de la restauration, c'est un tout petit peu différent. Mais de manière générale, on est en train de retrouver ce qu'on avait avant la crise sanitaire. Sachant que dans les années précédentes, donc depuis en gros de 2015, on avait une tendance à l'augmentation effectivement de ces difficultés de recrutement, qui est liée au fait que la situation du marché du travail globalement s'améliore, c'est-à-dire que malgré tout, on a plus de recrutement, le chômage baisse, donc on est sur une période qui est une période d'amélioration. Or, les difficultés de recrutement sont très fortement liées à la situation conjoncturelle du marché du travail. Cela dit, même en France, c'est vrai qu'on a constaté plutôt quand même une augmentation du phénomène, indépendamment de la conjoncture. Il y a plus de métiers touchés quand on regarde la situation. Donc en 2019, il y avait plus de métiers touchés qu'en 2015, par exemple. C'est plutôt 6 métiers sur 10, alors qu'on était à 4 sur 10 quand on regardait la situation en 2015. Donc voilà, c'est une tendance qui, malgré tout, s'aggrave. Mais encore une fois, sans que les chiffres atteints soient réellement exceptionnels. Il faut rester de ce point de vue-là par rapport à la situation britannique. On n'est pas dans une position particulièrement inquiétante.
Les secteurs et les métiers touchés aujourd'hui en France ?
Alors, on a différents types de secteurs et de métiers. On a des métiers qui sont des métiers très qualifiés, en particulier toutes les professions d'ingénieurs. On manque d'ingénieurs dans toutes les spécialités, en particulier dans le BTP, dans l'informatique, mais vraiment sinon même dans l'industrie. On manque aussi ensuite d'ouvriers qualifiés dans l'industrie, sur des métiers un peu spécifiques, dans le bâtiment, de manière générale. On manque ensuite de personnel donc plus faiblement qualifié dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est vraiment le secteur où le niveau des pénuries de main-d'œuvre est le plus important. Et ensuite, dans les métiers de service, effectivement, les professions les plus touchées, c'est l'aide à domicile. Et puis, donc, les métiers de serveur, la restauration de manière générale, qui sont effectivement aussi très fortement concernés.
Mais quand vous parlez de ces pénuries, est-ce que ça veut dire que les entreprises recrutent davantage qu'avant la pandémie, ou c'est simplement que des gens ont disparu des radars, finalement, et qu'on ne les retrouve pas après la pandémie ?
Alors, il y a un redémarrage des embauches qui, bien sûr, du coup, peut créer un décalage. C'est-à-dire que plus on a de flux, plus on veut embaucher et plus ça va être effectivement difficile. Il y a un problème de niveau, de quantité. Et d'ailleurs, dans les secteurs comme l'hôtellerie-restauration, par exemple, on est sur des volumes de recrutement très importants parce qu'il y a des contrats qui peuvent être des contrats relativement courts. Donc ça revient souvent, il faut souvent réembaucher quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose qui rend forcément les recrutements plus complexe quand on est sur des volumes importants. Or là, évidemment, avec le redémarrage, tout d'un coup, il faut beaucoup de recrutement et ça, c'est plus compliqué.
Vincent Sitz, justement, pour l'hôtellerie-restauration, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises recrutent pour retrouver le même niveau de poste occupé d'avant la pandémie ou plus ?
Alors, je ferai un petit peu la genèse un petit peu avant le Covid, parce qu'il faut quand même rappeler que l'hôtellerie-restauration avait déjà 150 000 postes à pourvoir avant le Covid. Donc on avait déjà, ça fait 20 ans qu'on en parle, des difficultés de recrutement dans notre secteur, sans que ça puisse réellement poser de problème, parce qu'on arrivait à recruter dans les écoles, dans les CFA et les écoles hôtelières.
Les centres de formation des apprentis.
Exactement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'après Covid, on a en plus perdu environ 110 000, 120 000 salariés de notre secteur. secteurs qui ne sont pas remplacés. Donc on se retrouve aujourd'hui avec 250 000 ou 240 000 postes à pourvoir, avec des entreprises qui ont réouvert et avec une forte activité, avec du personnel en moins. Donc ce qui crée une grosse tension.
Dans ces 240 000 ou 250 000 personnes qui manquent pour des postes vacants, il y en a donc 110 000, 120 000 qui étaient là avant la pandémie, qui occupaient des postes et qui ne sont plus là. Où sont-elles passées ?
Eh ben ils ont avant Covid, il était difficile par l'activité, par le temps de pouvoir se consacrer ou de se dire je vais changer de métier parce qu'on a tous nos obligations, on a tous une famille, des choses à faire et donc on a pas le temps de pouvoir y réfléchir ou en tout cas le mettre en place. Le Covid a permis pour certains d'avoir accès à des formations puisque les formations avec le FNE ont largement aidé à pouvoir certains avoir des compétences dans le secteur d'activité, mais aussi pouvoir changer de branche ou de secteur. Et donc, ces personnes-là ont profité du Covid, des confinements successifs pour pouvoir faire des formations et rejoindre d'autres secteurs d'activité.
Christine Herel nous disait, en gros, les pénuries sont à la fois sur des emplois très qualifiés, des emplois peu qualifiés. Est-ce que c'est la même chose pour le secteur de l'hôtellerie-restauration ?
Oui, parce que si je dis que c'est uniquement des postes peu qualifiés, ce serait un peu réducteur. Aujourd'hui, on voit que en cuisine, par exemple, on ne cherche pas uniquement des plongeurs. On cherche aussi ce qu'on appelle des chefs de partie. Donc, ce sont des gens qui ont des compétences techniques importantes. Comme en salle, c'est pareil. On ne cherche pas uniquement des commis de salle. On cherche aussi bien des chefs de rang que des maîtres d'hôtel. Et là, ce sont des gens qui ont des compétences techniques importantes. Donc, effectivement, ça touche tout le monde.
Est-ce que, alors on parlait des hausses de salaires au Royaume-Uni, est-ce que à l'heure actuelle, les salaires sont à la hausse en France ou pas tellement, Christine Herel ?
Non, pas tellement. Pour le moment, on est plutôt sur une dynamique qui est très modérée sur les dernières données. Hein. Ensuite, il va falloir observer ce qui se passe dans les mois qui viennent, puisqu'on est juste en sortie de crise, donc c'est trop tôt pour le dire. Mais pas de hausse de salaire remarquable en moyenne en France actuellement.
Pour l'hôtellerie et restauration, c'était le gros point noir, ça et les conditions de travail. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Les gens se plaignaient de salaires trop bas.
Alors, oui, les gens se plaignaient de salaires trop bas. En même temps, je pense que tout le monde espère être toujours payé un petit peu plus. Aujourd'hui, le problème de la rémunération est en train d'être, en tout cas, discuté avec les organisations patronales et les organisations salariales de façon à pouvoir convenir ensemble d'une augmentation éventuelle ou en tout cas de revoir la grille salariale.
Qui n'avait pas évolué depuis ?
Alors, depuis 2018 et un petit peu plus si on regarde réellement.
Oui. Ça veut dire que ces augmentations de salaire vont être ou sont déjà répercutées sur l'addition du client ou pas ?
Aujourd'hui, on est confronté à un manque de personnel. Deux, on est confronté à une augmentation des matières premières qui est conséquente. Mais ça, c'est pour tout le monde. Hein, c'est pas uniquement l'hôtellerie-restauration. Donc forcément, si en plus on doit certainement augmenter les salaires, il faudra que ça se répercute quelque part, en partie en tout cas.
En partie sur le client, en partie sur la marge ?
Alors,
des entrepreneurs,
on sera obligé de faire un petit peu des deux, certainement, en fonction de chacun et des possibilités qu'il aura. Mais ce sera effectivement une augmentation des tarifs auprès du client et une partie qui sera de réduire les marges, si toutefois c'est possible.
Le président Macron a par ailleurs annoncé la défiscalisation des pourboires par carte bancaire, quand les gens payent leur addition par carte
ça
bancaire.
Ça faisait partie des nombreuses demandes, et puis depuis de très 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 longtemps, puisque la problématique du pourboire, c'est qu'aujourd'hui, le paiement sans contact a fait que les pourboires en numéraire, en espèces, ont quasiment presque disparu. Et le problème était de ne pas... Le problème se pose de pouvoir encaisser des pourboires avec les cartes bancaires. À partir du moment où l'employeur a la connaissance que le salarié touche des pourboires sur un encaissement et via la carte bancaire, il a l'obligation de le déclarer comme du salaire, donc de payer les charges et le salarié d'être imposé dessus.
Et donc là, ça va changer quelque chose si c'est défiscalisé ou pas ? Sur l'attractivité des métiers ?
Je suis pas sûr que je suis pas sûr que cette partie-là puisse faire venir plus de gens qu'on cherche. Par contre, ça permettra peut-être de fidéliser certains qui y retrouveront un intérêt.
Les conditions de travail dans l'hôtellerie-restauration, est-ce que c'est vraiment un problème ? Le dimanche qui est payé comme un jour normal, les soirées, aujourd'hui, c'est un problème pour la vie de famille, pour s'occuper de ses enfants, notoirement.
Alors, et ça fait depuis toujours, notre secteur d'activité n'a su que de parler de ces métiers que par ces contraintes, parce qu'à l'époque, je dis à l'époque, mais c'était pour travailler dans l'hôtel-restauration, il faut être passionné, il faut être courageux, et donc on ne parlait de nos métiers que par leurs contraintes. Alors aujourd'hui, on en paye les frais, hein, parce que quand vous dites à quelqu'un, bah, tu vas travailler le soir, tu vas être en coupure, tu vas travailler le samedi, le dimanche, et tu vas travailler pendant que les autres s'amusent, et ben cette jeune génération-là, bah, ça ne l'intéresse pas,
oui,
du tout.
Mais même sans en parler, de toute façon, on s'en rend vite compte quand on occupe le poste.
Donc... Oui, mais en même temps, je voudrais rappeler qu'il n'y a pas de métier sans contrainte, et celles dont je viens de parler sont inhérentes à notre secteur d'activité. Donc aujourd'hui, le but, ce n'est pas de se dire que ça n'existera plus ou on va en faire fi. Non, aujourd'hui, c'est de trouver des moyens qui font que on puisse compenser en partie ou rendre nos métiers attractifs.
Mais il y a quand même plus de contraintes encore que dans le bâtiment, dans le secteur du nettoyage, par exemple.
Je ne suis pas sûr. Enfin, travailler dehors quand il ne fait pas beau, froid, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien que d'être dans un restaurant avec beaucoup de monde. Je ne sais pas, je ne crois pas.
Christine Hérel, les conditions de travail, la réflexion sur l'attractivité des métiers aujourd'hui, est-ce que c'est central ou pas dans cette pénurie de main-d'œuvre ?
Oui, c'est très important globalement. Hein, le ministère du Travail estime, dans les études qu'il a réalisées sur le sujet, qu'il y a environ un tiers des pénuries de main-d'œuvre qui sont liées à des problèmes de conditions de travail. Et puis d'autres pour lesquels ce n'est pas le seul facteur, mais c'est un facteur qui contribue. Alors bien sûr, ce qui est difficile, c'est ce que vous venez de dire à l'instant, c'est-à-dire que c'est hétérogène selon les métiers et les secteurs. Les problèmes ne sont pas les mêmes partout. C'est-à-dire quand on parle de problèmes de conditions de travail, ça ne va pas être effectivement les mêmes dans le bâtiment ou dans la restauration. Dans la restauration, on est sur des problèmes d'horaire, effectivement surtout d'horaire dit atypique, et d'amplitude, de morcellement éventuellement, qui sont des choses qui peuvent poser problème. Ensuite, sur ces questions d'horaire, je pense qu'il y a deux questions fondamentales au regard des enquêtes qu'on a sur les conditions de travail, qui sont le degré de maîtrise que les gens peuvent avoir, c'est-à-dire est-ce que c'est planifié, est-ce qu'on connaît les horaires à l'avance, est-ce que quand on a besoin de changer parce qu'on a une contrainte familiale, on va pouvoir le faire, etc. Donc je pense que dans les voies d'amélioration, ça peut être travaillé sur ces questions-là, la question de la prévisibilité, de la maîtrise des horaires quand on a des difficultés. Et puis le morcellement aussi, quelque chose qui pose problème, le fait d'avoir des horaires des plages, voilà ce que vous appelez la coupure. Effectivement, c'est ça qui pose le plus de problème aux salariés. Ensuite, effectivement...
D'autant plus dans les grandes villes où les salariés habitent loin de leur lieu de travail et donc effectivement, ils peuvent se retrouver avec des journées de 15 heures, voire plus, si la coupure ne peut pas permettre de rentrer chez eux.
Là, on parle d'amplitude horaire, pas d'heure de travail.
Non, on parle d'amplitude horaire, mais ça fait quand même une très longue journée.
Exactement.
C'est toutes ces questions-là qu'il faut effectivement essayer d'améliorer, mais ça peut se faire qu'au niveau de chaque établissement, chaque entreprise. Enfin, c'est difficile de faire ça de manière globale, mais c'est vrai que dans les orientations générales, effectivement, c'est des points sur lesquels il faut prendre en compte. Ouais. Donc, il y a améliorer ça. Et puis après, oui, certaines formes de compensation, donc le salaire, les primes, etc., bien sûr, c'en est une. Il peut y avoir d'autres choses. Par exemple, le fait d'avoir un moyen de transport pris en charge quand on finit très tard le soir. Bon, voilà, ça peut être... C'est des choses très simples, mais ça peut aider, par exemple, aussi pour des femmes qui vont aller travailler le soir dans un bar ou un restaurant pour rentrer chez elles si elles n'ont pas de moyen de transport individuel.
Moyen de garde pour les enfants.
Bon, il y a la garde pour les enfants. Enfin, voilà, il y a toute une série de choses qu'il faut penser autour de ces horaires atypiques qui, de toute façon, effectivement, font partie de l'activité et ça ne changera pas. C'est l'aménagement de ce qu'il y a autour qui peut changer.
Est-ce que les problématiques de prévisibilité des emplois du temps, par exemple, qui changent sans que le salarié soit prévenu très à l'avance et tous ces problèmes-là, est-ce que ce n'est pas aussi lié au fait qu'on est sur des PME ou TPE, donc très petites entreprises? Si on prend un très grand groupe comme le leader mondial de l'hôtellerie comme Accor, les problématiques d'emploi du temps qui sont toujours les mêmes, hein, mais sont largement compensées par des acquis sociaux très importants. C'est plus simple aussi dans un grand groupe ou pas ?
Je ne suis pas sûr que ce soit plus simple dans un grand groupe que dans une TPE-PME. Aujourd'hui, on peut dire que dans l'hôtellerie-restauration, en tout cas pour les petites entreprises, il y a eu un très très gros effort de digitalisation. Je vois de nombreux établissements qui aujourd'hui, la planification ne se fait plus au travers d'une feuille blanche ou d'un fichier Excel. Maintenant, ils ont tous en partie des applications qui permettent de prévoir donc les plannings bien à l'avance et surtout que le salarié soit informé sur son smartphone de son planning à l'avance et qui peut même lui interagir avec un collègue. Donc, je pense qu'on a bénéficié de tous les avantages ou toutes les applications qui ont été mises dans des secteurs plus importants ou dans des entreprises plus importantes. Et aujourd'hui, ça sert à nos entreprises, aussi bien pour la réservation que pour les commandes.
Et malgré tout, les gens ne reviennent pas à leur poste.
Oui, parce qu'on a une espèce de porosité entre la vie professionnelle et la vie sociale. Aujourd'hui, vous avez des générations j'avais une vision plutôt de carrière et donc je mettais ma vie personnelle pas de côté mais un petit peu quand même. Aujourd'hui, eux ne veulent pas la dissocier. Donc ils veulent, c'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'ils veulent travailler mais en même temps ils veulent vivre, donc ils veulent profiter aussi de leur temps.
Évolution des mentalités ou perspective d'évolution moins importante aussi dans ces métiers-là à voir, à discuter. En tout cas, si on reprend des chiffres à l'international, le nombre d'habitants des pays de l'OCDE ne travaillant pas et ne cherchant pas de travail a bondi de 14 millions depuis le début de la pandémie. Alors, qui sont ces 14 millions de personnes supplémentaires qui sont pourtant en âge de travailler? On en discute également avec notre correspondante aux États-Unis où les grèves et les vagues de démission se succèdent. Ça sera juste après cette chanson dédiée aux travailleurs antillais qui se lèvent tôt, 4 heures du mat, en créole. Écoutez 7 milliards de voisins sur RFI, on est en direct et on parle de cette pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou pas dans le monde. On évoquait la situation au Royaume-Uni, en France. On est avec Christine Herel qui est directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM et Vincent Sitz, président de la commission emploi-formation du groupement national des indépendants, hôtellerie, restauration. Et vous êtes vous-même restaurateur à Paris. Direction tout de suite les États-Unis. On est en ligne avec Loubna Anaki qui est notre correspondante aux États-Unis. Bonjour Loubna.
Bonjour.
Aux États-Unis, la pénurie de main-d'œuvre atteint des niveaux records. 10 millions d'emplois sont vacants selon les derniers chiffres. Et c'est un phénomène qui touche là aussi presque tous les domaines d'activité.
Oui, et comme partout, il suffit de se balader dans la rue pour s'en rendre compte. Ici à New York, par exemple, les panneaux « on recrute » sont partout, les cafés, les restaurants, les magasins, les hôpitaux. Il y a effectivement 10 millions d'emplois à pourvoir pour la première fois de l'histoire des États-Unis. Et ce nombre augmente de mois en mois depuis le printemps. En fait, le gouvernement avait mis en place des aides aux chômeurs en raison de la crise sanitaire et parce que l'économie était à l'arrêt. Certains responsables politiques, notamment Parti républicain, estimaient que c'était à cause de ces aides que les gens ne cherchaient pas de travail. Les aides ont expiré le mois dernier et pour l'instant, on ne voit pas vraiment de changement.
Et comment expliquer cette situation alors ?
Eh bien, selon les recherches et les sondages qui ont été faits ces derniers mois, plusieurs explications sont avancées. D'abord, certains Américains craignent encore d'attraper le coronavirus, surtout s'ils vivent avec des personnes âgées ou vulnérables. Ensuite, il y a toute une série d'éléments qui se sont alignés au même moment. La fin des restrictions a permis aux commerces et aux entreprises de rouvrir. Cette réouverture a lieu pour tout le monde en même temps. Donc, tout le monde essaye de recruter en même temps. Résultat, la compétition est rude pour les employeurs. Certaines entreprises redoublent d'ingéniosité pour convaincre leurs potentiels candidats. Certains offrent des bonus, de meilleurs salaires, des avantages sociaux plus intéressants. Des sociétés vont même jusqu'à proposer de rembourser la dette étudiante de leurs nouvelles recrues.
Et ces 10 millions de postes, il s'agit de nouvelles créations d'emplois ou c'était 10 millions qui existaient avant ?
Alors, il y a bien sûr des créations d'emplois. Aux États-Unis en ce moment, comme partout, il y a d'importants retards de livraison. Les ports sont saturés. Il faut donc recruter des livreurs, des machinistes, des routiers en plus pour espérer rétablir la situation. Par exemple, Amazon cherche à recruter 150 000 personnes, pareil chez Walmart. UPS et FedEx ont besoin de 100 000 personnes pour assurer les livraisons pour les fêtes. On n'est pas loin de Thanksgiving ici. Il y a aussi les restaurants, les hôtels qui avaient peut-être fermé ou réduit leur personnel et qui sont aujourd'hui prêts à recruter. Mais voilà, ceux qui occupaient ces postes avant ont trouvé d'autres métiers entre-temps et ne veulent plus revenir en arrière. Certains experts expliquent aussi que l'entrepreneuriat est en hausse. Les gens préfèrent travailler pour eux-mêmes pour avoir plus de flexibilité, notamment pour leur vie de famille. En fait, il y a surtout un déséquilibre entre les domaines qui ont du mal à recruter et les domaines dans lesquels les candidats à l'emploi cherchent à être embauchés.
Et cette pénurie de travailleurs et cette course au recrutement a placé le pouvoir du côté des travailleurs, ce qui donne lieu à des mouvements sociaux extrêmement importants pour les États-Unis.
Oui, partout, des grèves ou des menaces de grève se multiplient au point que certains ont baptisé le mois d'octobre Striketober pour les grèves. La plupart des travailleurs dénoncent des conditions difficiles et ils sont d'autant plus remontés que leurs employeurs, eux, ont réalisé des chiffres d'affaires importants durant la crise sanitaire, alors que eux ont dû travailler encore plus pour assurer la continuité des services avec un salaire qui est resté le même. Pour certains, la crise sanitaire a également servi de prise de conscience. Une récente étude montre que les Américains n'hésitent plus à démissionner si leur travail actuel ne leur offre plus la qualité de vie dont ils rêvent. Ici, les démissions ont augmenté de 13%.
Merci Loubna Anaki, en direct de New York aux États-Unis. Aux États-Unis, où plus de 17 conflits sociaux ont déjà éclaté en octobre. Au total, on a près de 180 conflits sociaux cette année. Le salaire minimum qui, sur le papier, reste toujours de 7,25 $, mais en réalité, près de 80% des travailleurs américains gagnent au moins 15 $ de l'heure contre 60% seulement des Américains en 2014. Alors finalement, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Christine Herel, l'épargne des ménages américains est beaucoup plus importante, mais il n'y a pas qu'aux États-Unis d'ailleurs. Cette épargne des ménages a été gonflée par la pandémie parce que les gens ont arrêté de consommer. Est-ce que ça peut être un élément d'explication quand on a un peu d'argent sur son compte en banque ? On a moins d'hésitation à ne pas revenir à son poste de travail ou pas, selon vous ?
Ça peut rendre les gens un petit peu plus exigeants, mais malgré tout, je pense qu'il reste une question. Enfin, l'horizon temporel reste incertain, c'est-à-dire que c'est quand même difficile de faire ce type de pari à moyen terme. Donc, je ne pense pas que ce soit la raison fondamentale. Je pense que la raison fondamentale de la transformation à laquelle on assiste aux États-Unis, c'est quelque chose qui avait été déjà un petit peu amorcé quand même, même avant la crise sanitaire. C'est la prise de conscience du fait que certaines conditions d'emploi ne sont pas acceptables. Donc tout le débat sur le salaire décent, le living wage qui avait commencé aux États-Unis bien avant la crise Covid, en fait, du coup, là, il revient vraiment sur le devant de la scène avec donc effectivement des problèmes d'attractivité pour certains métiers. Parce que malgré tout, comme vous le disiez, il y a eu des augmentations, mais il reste des emplois extrêmement mal payés avec de très mauvaises conditions de travail. C'est sans comparaison avec ce qu'on peut avoir en France où on a un niveau de salaire minimum qui est plus élevé. Donc on n'est pas dans les mêmes conditions.
Finalement, avant la pandémie, on était arrivé déjà un peu au bout d'un modèle d'économie ultralibérale, que ce soit au Royaume-Uni, aux États-Unis, avec des emplois très précaires. On pouvait être payé à l'heure, à la demi-heure, juste à la tâche. On avait vu ça notamment dans les films de Ken Loach, etc. Où tout d'un coup, le travail devenait tellement morcelé qu'il en devenait indécent.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui s'est développé à l'extrême dans ces pays, avec du coup aussi des conditions de cumul d'emplois. C'est-à-dire que les gens, du coup, pour y arriver, étaient obligés d'additionner plusieurs petits boulots. Sinon, ils avaient un niveau de vie qui était vraiment totalement insuffisant. Et ça, c'est quelque chose qui, effectivement, apparaît moins acceptable aujourd'hui, d'où tous les mouvements qu'on évoque. Sachant que, par ailleurs, effectivement, la situation est celle aussi de très fortes barrières à l'immigration actuellement. Il y a le travel ban toujours en vigueur aux États-Unis. Donc, ça veut dire que ces emplois vraiment très mauvaises conditions de salaire, etc., étaient traditionnellement des emplois occupés par des migrants qui, du coup, n'arrivent plus sur le territoire américain. Donc, on a effectivement aussi un blocage de ce côté-là.
Ouais. Alors, justement, je vous rappelle notre numéro de téléphone 33 7 64 45 51 41 parce que vous avez été nombreux à réagir, notamment du continent africain, sur l'immigration. Écoutez le message de cet auditeur togolais.
Bonjour, je réponds au nom de Constantin Balaké Mabidi depuis Lomé, la capitale togolaise. Ces derniers temps, le monde fait face aux pénuries de main-d'œuvre et selon moi, pour remédier à ce problème, certains pays développés comme la France, le Royaume-Uni et les USA doivent faciliter l'immigration. Vous voyez, l'Afrique est un continent qui regorge beaucoup de jeunes qui sont sans emploi et de l'autre côté, en Europe ou en Amérique, les populations sont vieillissantes et c'est ce qui est à la base de la pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'exhorte les dirigeants d'Europe et d'Amérique à faciliter l'immigration des jeunes Africains qui viendront déployer leur énergie pour développer encore plus ces continents plutôt que de rester en Afrique et de continuer par vivre dans la précarité. Et aussi, en facilitant l'immigration, cela permettra non seulement de réduire les morts dans les océans, mais aussi sera bénéfique pour l'Europe et l'Amérique en termes de main-d'œuvre.
Voilà, les pénuries de main-d'œuvre vues du continent africain, c'est placé au coin du bon sens, Christine Hérel.
Oui, bah, tout à fait, c'est ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a la question des restrictions qui ont été mises en place spécifiquement face au Covid et qui ont fait baisser la mobilité. Et déjà, ça, en soi, c'est un problème. Mais ensuite, effectivement, de manière plus large, si on anticipe un petit peu dans les sociétés vieillissantes, comme par exemple l'Allemagne, qui typiquement est une économie vieillissante en termes démographiques, il y aura des besoins de main-d'œuvre qui ne seront pas satisfaits avec la main-d'œuvre nationale. Donc, ça peut être en partie ensuite des gens qui viennent d'autres pays de l'Union européenne, mais bien sûr aussi d'au-delà. C'est une question du coup qu'il faut se poser en termes économiques.
Sur le secteur de l'hôtellerie-restauration, Vincent Sitz, quelle est la place des travailleurs étrangers, Union européenne ou hors Union européenne ?
Dans l'hôtellerie-restauration, il ne faut pas se cacher que les métiers avec peu de compétences ou peu de qualifications sont souvent pourvus par des personnes issues de l'immigration. Maintenant, je ne suis pas là pour dire qu'il faut ouvrir les portes et embaucher tout le monde. Mais en tout cas, il faut reconnaître que de toute façon, on a peu de candidats français, entre guillemets, qui veulent faire ces postes parce qu'ils sont difficiles, parce que
notamment la plonge,
reconnaissants. Oui, tout à fait. Entre autres, la plonge, être commis de salle, runner, voilà, ce sont des métiers qui souvent sont faits par des personnes issues d'immigration ou qui
parce
sont à
temps partiel.
Parce
que ces personnes n'ont pas eu la chance aussi d'avoir les formations adéquates, de faire des écoles de cuisine, d'hôtellerie, alors que c'est le cas des Français qui ont eu davantage accès à de la formation professionnelle.
Et donc forcément, quand vous avez eu accès à de la formation, vous n'avez pas forcément envie tout de suite de commencer au plus bas de l'échelle. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'on est dans des métiers qui sont, en tout cas pour l'hôtellerie et la restauration, assez réglementés, avec des obligations de formation de nos salariés, même plongeurs, sur l'hygiène entre autres, parce que bien évidemment, on a cette obligation-là. Donc, on parle souvent dans l'hôtellerie et restauration de l'ascenseur social qui, bien évidemment, quand on dit le terme, ça ne parle pas aux salariés, ils ne voient pas ce que c'est. Mmh. Mais il y a une réalité qui est qu'on peut démarrer réellement plongeur et finir cuisinier ou voire même chef de cuisine, en tout cas dans l'hôtellerie et restauration.
Même parce si on a eu juste des formations à l'hygiène, ça suffit pour évoluer dans le métier,
non,
avoir une vraie évolution de carrière.
La formation à l'hygiène est un prérequis pour pouvoir travailler dans notre secteur d'activité. Mais bien évidemment, vous avez accès à d'autres formations.
On en discutait avec vous hors antenne, Vincent Sitz, vous nous disiez que, par exemple, le métier de plongeur, donc, est le métier le plus mal payé dans l'hôtellerie-restauration.
Pourquoi le plus mal payé ? C'est celui qui est forcément le moins payé, mais le plus mal, ce serait... Non, rappelons quand même que l'hôtellerie-restauration valorise le SMIC à 10% de plus. Donc, chez nous, on n'a personne qui est au SMIC. Ouais.
Mais en raison aussi d'horaires très décalés. Mais ces personnes-là qui ne sont pas revenues. Donc, vous me le disiez, vous êtes à près de 90% de personnes immigrées qui sont dans la plonge. Ces personnes-là ne sont pas revenues après la pandémie, lors de la réouverture des établissements. Où sont-elles parties ?
Déjà, il y a un premier point, c'est que ces personnes qui ont vu leur restaurant fermé dans la journée du 14, ne sachant pas ce qu'il allait devenir pour eux, entre guillemets, par sécurité pour certains, ont attendu l'activité partielle puisque ça a été garanti, et pour d'autres ont eu la chance de pouvoir cumuler l'activité partielle et les découvrir un autre secteur d'activité parce qu'ils avaient besoin de pouvoir compenser ou d'avoir des rémunérations supplémentaires, et ont pu aller travailler dans d'autres secteurs, entre autres, je vais dire, la grande distribution.
Ouais, les grands les supermarchés.
Supermarchés,
qui eux évidemment étaient ouverts et tournaient à plein pendant les confinements. Ce qui veut dire que finalement la protection sociale a dépouillé l'hôtellerie-restauration d'une certaine manière indirectement.
Non, on peut pas dire que la protection sociale, parce que dans notre secteur d'activité, nos salariés sont aussi protégés, ils ont les mêmes droits que les autres. Mais c'est vrai que certaines conditions ont permis à des salariés de pouvoir changer de secteur parce qu'ils se sont retrouvés à ne pas travailler forcément le soir ou pas du tout le week-end, ou en tout cas s'ils devaient travailler le soir, c'était pas plus tard que 21h. Potentiellement avec un comité d'entreprise parce qu'ils sont dans une grosse entreprise. L'expectative de peut-être pour certaines d'avoir un 13e mois. Donc tous ces points ont fait que pour certains, ça a été l'occasion en tout cas de pouvoir quitter le secteur de l'hôtellerie et restauration.
On a entendu nos correspondantes au Royaume-Uni, aux États-Unis, nous parler de tout ce qui était visible pour le consommateur dans ces pénuries de personnel. Il y a des chaînes hôtelières aux États-Unis qui s'interrogent par exemple sur la possibilité de supprimer les plats chauds au buffet du petit déjeuner, de supprimer le nettoyage systématique dans les chambres et qui se ferait que à la demande des clients. Est-ce qu'en France, on réfléchit carrément à repenser l'offre de services à cause de la pénurie de personnel ?
Alors, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est déjà existant en France, hein, le fait de ne faire la chambre que quand le client le demande. Ça va dans ce que font toutes les entreprises, développement durable. Le fait de éviter de relaver du linge, éviter de passer avec des produits dans les chambres. Donc, effectivement, ça, c'est déjà existant. Il n'y a pas de souci.
Oui, c'est vendu comme du développement durable. En réalité, c'est de la pénurie de personnel.
Pas forcément. Mmh. Non, ça va aussi dans la demande de ce que veulent les clients. Hein. C'est, bien évidemment, c'est pas uniquement dans... Non, quand il y a vraiment une pénurie de personnel, je vais vous dire que dans l'hôtellerie, c'est simple, on ferme un étage. Hein. Voilà, on ferme un étage et le problème, est réglé temporairement.
Christine Herel, comment est-ce qu'il faut comprendre à l'heure actuelle ce qui est en train de se passer sur le plan des aspirations des gens qui sont dans le monde du travail, sur le plan générationnel ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est... Il y a eu le phénomène du télétravail, mais tout le monde n'a pas des emplois de toute façon qui peuvent se faire en télétravail, même si ça reste un des points de discussion maintenant au moment des embauches hein, avec les DRH. Comment il faut lire ce contexte actuel et quelle durabilité il faut y voir ?
Alors, je pense qu'il y a des choses qui sont liées au contexte Covid et d'autres qui sont bien antérieures. Donc, tout à l'heure, on a évoqué la question de l'aspiration à mieux concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très fort, qui, effectivement, a une dimension générationnelle. Les jeunes, de ce point de vue, n'ont pas les mêmes aspirations que les gens plus âgés. Et c'est une transformation qui n'est pas liée au Covid. Ça avait commencé avant et ça va se poursuivre. Il n'y a aucune raison que ça soit autrement. Voilà, donc ça, c'est vraiment un mouvement important qui, du coup, a des conséquences sur ce qu'on considère comme étant un bon emploi. C'est-à-dire qu'effectivement, on va, du coup, regarder si l'offre ses possibilités de aussi développer des activités personnelles, concilier avec sa vie personnelle et familiale, etc. Donc ça, c'est un premier aspect. Ensuite, la crise du Covid a effectivement fait naître peut-être de nouvelles aspirations en matière de qualité de vie, de l'environnement de vie. Donc effectivement, avec ces personnes qui quittent les grandes villes pour aller s'installer dans des villes moyennes, etc., après, il est difficile de savoir si c'est un mouvement qui va être un mouvement durable, parce que malgré tout, l'emploi reste dans les grands centres urbains, c'est-à-dire que les difficultés qui vont être ensuite liées à ces mobilités pour aller travailler, alors même si c'est pas tous les jours, hein, mais malgré tout, on a besoin d'un minimum de travail en présentiel, de près de groupe, etc. Il n'est pas certain du coup que ce phénomène soit durable. il faut attendre un petit peu pour pouvoir mieux l'observer. Mais par contre, je pense que la tendance à vraiment mettre, accorder de l'importance à sa vie personnelle, c'est quelque chose qui pour le coup, va se poursuivre.
Comment faire en sorte que les personnes qui sont encore au chômage aujourd'hui, on a près de 8% de chômage en France, puissent bénéficier de tous ces postes à pourvoir? Entre 800 000 et 900 000 postes.
Le plus souvent.
Alors la clé, c'est quoi? C'est la formation.
Mais la clé, c'est souvent la formation quand même, oui. Parce que du coup, effectivement, les personnes qui sont au chômage, pour celles qui sont au chômage depuis relativement longtemps, il y aura toujours une question d'adaptation et de formation qui est nécessaire. Donc, il faut effectivement essayer d'orienter les personnes qui sont au chômage vers ces métiers qui ont des besoins de recrutement importants.
Est-ce que les annonces vont dans ce sens? Parce que le Premier ministre Jean Castex a annoncé 600 millions d'euros pour la formation des salariés par les PME, c'est-à-dire réintérioriser la formation au sein des entreprises. Un plan de 560 millions d'euros supplémentaires aussi pour former les demandeurs d'emploi, donc ceux qui sont bien à l'extérieur de l'entreprise et qui cherchent à trouver du boulot en 2022. Est-ce que ça sera suffisant? Et est-ce que c'est possible ou est-ce que de toute façon, aujourd'hui, vu l'état des économies, vu le niveau d'exigence des emplois quels qu'ils soient, on aura toujours un chômage structurel incompressible?
On aura toujours un certain niveau de chômage.
Les niveaux d'embauche.
Même dans les pays au plein emploi, on a toujours à peu près 4% de chômage. Le plein emploi, c'est 4 à 5% de chômage. Ce n'est pas zéro, ce n'est pas possible, parce qu'il y a une question de rotation sur les postes qui fait que, de toute façon, il y a des temps où on se retrouve au chômage. Et ça n'est pas grave, c'est le fonctionnement normal de l'économie. Ce qui est grave, c'est quand le chômage dure. Et quand il est au-dessus d'un certain niveau. Mais ce qu'on a en France, effectivement, c'est plutôt ça. C'est un problème de gens qui se retrouvent au chômage et qui y restent. C'est le problème du chômage de longue durée. Et donc là, effectivement, la clé, c'est la formation. C'est aussi d'intervenir de manière assez précoce. C'est d'éviter que les gens restent, effectivement, trop longtemps dans une situation de chômage parce que, du coup, le retour après est plus compliqué. Les qualifications, on a tendance à les perdre, en fait, quand on reste trop longtemps au chômage. Et puis, on a en France un volant de gens qui sont au chômage et qui sont vraiment très faiblement qualifiés, voire pas qualifiés du tout. Pour lesquels, du coup, la question de la formation, c'est compliqué parce que c'est aussi une formation à des compétences vraiment de base dont on a besoin. Et ça, je pense qu'on en manque peut-être encore un petit peu dans les politiques d'emploi qui sont mises en place actuellement. Avant de passer à des formations un peu qualifiantes ou certifiantes, en tout cas, il faut aussi parfois vraiment travailler sur le socle de connaissances de base. Et celui-là, évidemment, les compétences demandées par les entreprises ont tendance à augmenter parce que il faut pouvoir se servir aujourd'hui d'outils numériques, etc., dans quasiment tous les métiers.
Ça veut dire des écoles de la deuxième chance pour rattraper la marche qu'on a loupée pendant les années à l'éducation nationale, où l'éducation nationale n'a pas fait son travail, je ne sais pas.
Alors, il y a plein de raisons. C'est difficile de charger exclusivement l'éducation nationale. Il y a des tas de motifs qui vont faire que des gens sortent ou n'apprennent pas à l'école. Mais il faut effectivement savoir les rattraper. Oui, c'est ce principe de la deuxième chance qui est fondamental sur les compétences de base.
Et pour l'hôtellerie-restauration, Vincent Sitz, comment vous envisagez de vous adapter à cette pénurie de main-d'œuvre que vous estimez plus ou moins durable?
Alors déjà, je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit, puisque l'hôtellerie-restauration est quand même un secteur ultra dynamique, en tout cas en termes de formation, puisqu'on est... On a créé nos CQP, donc nos certificats de qualification professionnelle, qui peuvent être faits dans des formations courtes, parce que le problème de faire un CAP, un bac pro, forcément, déjà, c'est pas forcément accessible à tout le monde, et en même temps, c'est forcément des formations longues. Donc aujourd'hui, on a nos CQP qui peuvent être faits avec en association avec Pôle emploi, puisqu'on fait des POEC, des préparations optionnelles à l'emploi collectif, qui permettent de regrouper un certain nombre de personnes au chômage, soit de longue durée ou pas, de pouvoir avoir accès à nos formations et à nos métiers, mais avec au préalable, bien évidemment, ce qu'on appelle des formations de base CLÉA, entre autres, où on va résoudre le problème de l'illettrisme, de la lecture, du savoir-être, parce que forcément, quand vous avez des personnes issues de l'immigration, la différence de culture fait qu'on est obligé de leur apprendre des bases qui, pour nous, sont des choses simples et évidentes, mais qui, pour eux, ne sont pas aussi faciles que ça. Donc, c'est vrai que d'avoir accès aux formations et compétences n'est pas suffisant. Il faut d'abord travailler le socle d'abord pour pouvoir leur donner toutes les chances.
Tous ces emplois dont on a parlé depuis le début de l'émission, c'est rarement des emplois délocalisables, sauf peut-être ceux d'ingénieurs dans l'informatique, hein, où les délocalisations ont déjà eu lieu et le travail peut se faire à distance au-dessus des frontières. On sait que l'intelligence artificielle, les technologies de caisse automatique, etc. sont déjà largement en place dans les centres de e-commerce comme Amazon ou dans les supermarchés. Est-ce que c'est quelque chose qui va s'accélérer, qui est envisageable encore plus dans l'hôtellerie-restauration ou ailleurs, Christine Herrel?
Ça va forcément s'accélérer parce qu'il y a des innovations technologiques qui effectivement font qu'on va développer une forme de robotisation sur certaines tâches. Mais ça ne fait pas forcément disparaître les emplois. C'est-à-dire que ce qu'on a vu justement sur les caissiers et caissières, c'est que ces métiers n'ont pas disparu. Au contraire, hein, il y a même eu une augmentation des effectifs de caissiers et caissières sur les dernières années parce qu'elles sont davantage, elles et ils sont davantage multitâches en fait. Donc du coup, c'est plutôt la polyvalence qui va se développer. Et donc c'est quelque chose là encore qui exige une montée en qualification. On rejoint la question précédente. Et du coup, c'est des métiers plus divers, mais aussi plus exigeants en termes de qualification.
Plus de formation, donc. Merci à tous les deux. Christine Herrel, directrice du Centre d'études de l'emploi et du travail au CNAM. Merci à vous, Vincent Sitz, président de la commission emploi-formation du Groupement national des indépendants hôtellerie. Restauration, et vous êtes restaurateur à Paris. Demain, 7 milliards de voisins, on sera tous au fourneau, c'est le cas de le dire, mais avec la chef Anto et le patrimoine culinaire du continent africain. Comment cuisiner les poissons? On parle cuisine chaque mois dans cette émission. Et les voisins et les voisines, on attend vos meilleures recettes, y compris pour ceux qui n'habitent pas en bord de mer. Il reste les poissons du fleuve. Appelez-nous au 33 7 64 45 51 41. Dans quelques instants, le journal. Ça sera juste après le retour de Stromae. Après 8 ans d'absence, son titre est dédié aux travailleurs du quotidien, si peu visibles. Santé.
À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa. Quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bater, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Bonne manière, pourquoi je ferais semblant? Toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez. Mieux vaut ne pas si frottez. Frotter, si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas.
Et merci à toute l'équipe qui présente et prépare chaque jour cette émission 7 milliards de voisins, Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. À demain les voisins. Autour de la